la paix. Il est 12h. Le journal de midi. Nelly Dali.
Bonjour à tous, merci de suivre les 96.0. Présidentielle 2025, plusieurs figures connues de la scène politique ont déposé ce week-end leur dossier de candidature à la CEI. Vous entendrez les premiers propos de Simone Yves Gbagbo et du représentant de Tidiane Thiam au terme du dépôt de leur dossier. Un bureau de liaison de fonds de garantir pour la prise en charge gratuite des frais médicaux des victimes à des accidents de la route a été récemment inauguré à Dalois. Vous aurez les détails sur le rôle de ce fonds. À l'international, 4 journalistes ont perdu la vie à Gaza dans une frappe israélienne sur l'hôpital Al-Nasser dans le sud du territoire palestinien. Nous reviendrons dans le studio de Radio de la Paix où nous serons en compagnie d'un consultant en droit, Dr Olivier Pierre Lobé, dans le cadre de l'invité de la rédaction. Avec lui, nous aborderons les compétences de la commission électorale indépendante en période électorale. Il répondra aux questions de Ismaël Ango. On ouvre ce journal avec l'actualité politique. La présidente du MGC, Mouvement des Générations Capables, Simone Eyvig Gbagbo, candidate déclarée, a déposé son dossier hier dimanche à la CEI. Elle a insisté sur la tenue d'une élection vraiment démocratique. On l'écoute.
C'est une étape importante que de venir déposer son dossier et d'avoir son dossier au complet. C'est ce que nous venons de faire. Notre pays s'est engagé dans les élections présidentielles. Et une des étapes, quand on s'engage dans ces élections, c'est de décider qu'on va être candidat. Si on veut être candidat, on est obligé de venir donc regarder la loi et déposer les pièces qui sont exigées pour pouvoir être reçu comme candidat. C'est ce que je viens de faire. Pour la suite, je souhaite pour mon pays, comme nous sommes ici à la CEI, c'est le meilleur endroit pour le dire, que nous ayons des élections extrêmement justes, extrêmement propres, des élections bien inclusive et des élections qui vont permettre à celui qui obtient le plus de voix des électeurs ivoiriens de remporter ces élections-là. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu me permette de gagner ces élections-là à la fin, n'est-ce pas, du mois d'octobre 2025.
Simone Yves Gbagbo, présidente du MGC, Mouvement des Générations Capables. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, RDA, était également au rendez-vous hier après-midi pour le dépôt de dossier de candidature de son président, Cheikh Tidiane Thiam. À la tête d'une délégation pour la circonstance, Alain Cocotret, directeur du cabinet du parti, a affirmé que cette candidature traduit la volonté de Cheikh Tidiane Thiam de poursuivre l'œuvre de développement du pays.
C'est à moi que je sois, cet après-midi, la responsabilité de vous informer que nous venons à l'instant en bonne et due forme de procéder au dépôt du dossier de candidature du président Tidiane Thiam à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Une candidature porteuse d'espoir et attendue de tous. En nous autorisant à déposer sa candidature officiellement en son nom, M. Cheikh Tidiane Thiam respecte l'engagement qu'il a pris devant le congrès du PDCI-RDA de porter la candidature du parti à l'élection présidentielle pour poursuivre l'œuvre de développement, de paix et de quête d'unité nationale qui était la vision du président Félix Houphouët-Boigny. Cheikh Tidiane Thiam vous donne rendez-vous pour tracer ensemble les sillons de la nouvelle espérance qu'il porte pour nous aujourd'hui et pour les générations de demain.
C'était le propos du directeur de cabinet du PDCI RDA, Alain Cocotret. Et en prétendant à la magistrature suprême, s'est signalé également hier dimanche. L'indépendant Djebi Djevami Olivier a lui aussi déposé son dossier pour la présidentielle du 25 octobre prochain. Il dit croiser les doigts pour cette fois passer le filtre du Conseil constitutionnel après le rejet de sa candidature en 2020 pour cause de doublons dont les parrainages.
Je viens de faire le dépôt de ma candidature à la présidence de la République. Je n'ai pas de discours à faire. Sinon que remercier tous mes concitoyens électeurs qui ont bien voulu cautionner ma candidature en m'accordant les parrainages. En 2020, sur les 44 candidats, nous étions arrivés en 5e position. On avait eu les parrainages dans 15 régions qui ont été validées sur les 17. 2 régions, malheureusement, on avait des doublons. Cette année, il y a eu le processus de tablettes qui avait été établi pour éviter les doublons, mais malheureusement, les tablettes n'ont pas fonctionné. comme elle fonctionnait avec le réseau et qu'il n'y avait pas une bonne couverture réseau et puis il y avait aussi d'autres problèmes techniques, on n'a pas la garantie encore de ne pas être exposé à des doublons. Donc j'espère que les parrainages que nous aurons déposés ne seront pas en doublon avec nos concurrents. Toujours est-il, on a déposé beaucoup plus de parrainages que requis. Et on espère que cette fois-ci, on va rentrer dans les quotas des 1% dans la moitié des régions et districts de Côte d'Ivoire. Et j'espère qu'on sera dans la course pour partager notre vision et notre projet de société avec tous nos concitoyens. On espère que nous aurons des élections ouvertes et apaisées et que au soir du 25 octobre, lorsque on va donner les résultats de ces élections, tous nos compatriotes pourront célébrer la victoire de leurs élections dans la paix et dans la joie.
À l'instant, Djebi Djev Ami Olivier, maire de Zuenoula et candidat déclaré à la présidentielle d'octobre. À sa suite, un autre indépendant est entré en lice. Mamadou Soumaoro a déposé également hier dimanche son dossier de candidature au siège de la CEI à Abidjan. Il dit vouloir mettre sa candidature au service de la promotion des valeurs démocratiques en Côte d'Ivoire.
Je viens de déposer ma candidature à l'élection présidentielle, symbole de mon engagement total envers notre nation. Mon projet pour la Côte d'Ivoire en tant que leader transformationnel est ambitieux. Il repose sur l'économie ruraliste, sur la démocratie libérale, l'innovation, la durabilité, la justice impartiale, la souveraineté et bien évidemment l'égalité des chances. Nous voulons renforcer l'indépendance de la justice. Nous voulons aussi promouvoir les valeurs démocratiques dans notre pays, organiser les élections inclusives et transparentes, respecter les droits de l'homme et lutter contre l'interprétation à géométrie variable des lois, en simplifiant et en clarifiant les lois pour éviter les ambiguïtés. Nous voulons construire une Côte d'Ivoire nouvelle en favorisant le leadership transformationnel. Le leader transformationnel agit avec intégrité et transparence, fait la promotion de l'innovation. Nous sommes venus avec des idées pour construire une Côte d'Ivoire nouvelle, pour apporter notre pied à l'édifice.
Mamadou Soumaoro, candidat indépendant déclaré à la présidentielle d'octobre prochain. Autre registre, le conseil régional du Tonkoui et sa cellule locale Écoter s'activent pour redonner vie au bas-fonds dans les départements de Mans et d'Annané. Dans le cadre de ce projet, une campagne de sensibilisation et de consultation populaire est en cours. Objectif, recueillir l'avis des populations et expliquer les retombées positives de la réhabilitation des périmètres rizicoles dans la région du Tonkoui. Les échos avec Stéphane Adams, notre correspondant.
Venue pour une séance de travail, la délégation de la cellule locale Écoter du conseil régional du Tonkoui, l'environnementaliste, chef de mission du projet, le professeur Kassi Kadjo Jean-Claude, apporte d'utiles éclairages.
Nous sommes dans la zone de Mans pour la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social simplifiée dans le cadre des réhabilitations de 98 hectares de bassins résicoles dans la région du Tonkoui. Les échanges qui ont eu lieu montrent que la population et les structures étatiques dans la région du Tonkoui ont accepté le projet et compte mettre tout en œuvre pour la réussite de ce projet.
Pour la réussite de ce projet, il se montre optimiste sur ce point.
La Côte d'Ivoire n'est pas encore en autosuffisance alimentaire. Il faut chercher à accroître la production pour atteindre ce niveau. Il faut qu'on arrive à se nourrir sans l'apport extérieur. Pour nous, ce projet va permettre au moins d'atteindre l'autosuffisance alimentaire.
Une bouffée d'espoir pour de nombreux riziculteurs de cette localité qui voient s'ouvrir la perspective d'une production améliorée, donc de meilleurs revenus.
Les Janot, nous sommes venus pour un projet qui va réaménager notre bas-fond pour la culture du riz. Donc le village est content pour ce projet. Ça va nous permettre aussi d'avoir de la nourriture, du riz dans le village pour qu'on puisse nourrir la famille avec ça.
Demandez Célestine, écoute, elle veut réhabiliter les bas-fonds de chez nous. Je suis très contente et prendre la bonne note pour aller aussi partager avec mes soeurs au village.
Ici, les étangs rizicoles, jadis aménagés par l'ex-projet Bad West, vont bientôt être mis en valeur. Mans, Stéphane Adams, Radio de la Paix.
Du côté du Bassa-Sandra, le comité de gestion locale du parc national de Taï était à l'heure du bilan de sa deuxième session de 2025. Un bilan évalué à 79% avec une inscription sur le label La Liste Verte, une distinction au niveau mondial attestant de la bonne conservation du parc de Taï. Des détails avec notre correspondant dans le Bassa-Sandra, Kofi Benson.
Cadre d'échange des parties prenantes pour une bonne conservation du parc national de Taï, le comité de gestion locale local a présenté son bilan du deuxième trimestre. Un bilan satisfaisant selon le président du comité de gestion locale, Dongo Kobenan, préfet de la région du Cavali.
Pour ce qui est du bilan, nous avons acquis un certain nombre de performances, environ 79% au deuxième trimestre, ce qui est véritablement à saluer. Et surtout un autre point central, c'est le lancement du prix vert, qui est la 8e édition. Le prix vert qui va participer au renforcement des actions sur terrain pour permettre aux populations, dans le cadre d'une approche participative, les amener, elles aussi, à participer à la conservation du parc.
Le colonel Amon Koutoua-Benoît, la bonne conservation du parc de Taï est un bon support pour attirer des financements, dont le label Lys Verte.
Cette session a permis de présenter le nouveau label Lys Verte. Ce label implique le parc national de Taï est bien conservé, bien géré avec l'implication des parties prenantes. Il produit des effets, des impacts qui profitent donc aux communautés et à l'ensemble des parties prenantes, maintient les processus écologiques et fournit des services écosystémiques à la communauté. C'est une distinction au niveau mondial qui permet donc de vendre ce parc et d'attirer des financements auprès de différents bailleurs de fonds et de différents guichets.
Les villages riverains du parc national de Taï sont attendus pour le prix vert visant à récompenser les villages éco-citoyens. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Parlons sécurité routière à présent. Le Fonds de garantie automobile a inauguré récemment un bureau de liaison au centre hospitalier régional de Daloa. Cette structure prendra en charge gratuitement toutes les victimes d'accidents de la route. Son directeur général en a profité pour sensibiliser automobilistes et acteurs du transport à la prévention des accidents. Compte rendu signé Jean-Noël Kwame.
Le directeur général du Fonds de garantie automobile Maizan Kofi Noël, lors de l'inauguration du bureau de liaison de ce fonds, a expliqué le rôle de cette structure dans la prise en charge des victimes des accidents de la route.
Notre mission s'étend à la prise en charge systématique et immédiate des frais médicaux des victimes d'accidents corporels de la voie publique dans un contexte où les accidents de la route demeurent une préoccupation de santé publique. Le bureau de liaison facilitera le traitement des dossiers grâce à des pharmacies privées et des fournisseurs de matériel. Les victimes sont prises en charge gratuitement, mais aidez-nous surtout à éviter les accidents. Soyons tous responsables sur nos routes.
Le secrétaire général de préfecture, Keipo Emmanuel, s'est réjoui de l'espoir que ce fonds entend apporter aux victimes des accidents de la route.
Trop souvent, ces drames laissent derrière eux des vies brisées, des familles désemparées et des difficultés financières. Ces nouveaux locaux symbolisent un espoir par l'adresse diligence des différents cas qui vous seront soumis. C'est à ce prix que nous pourrons doter notre pays d'un système d'assurance inspirant pour la sous-région et pour la génération future. Tous au service routier, afin de prévenir tous ces accidents qui font des dégâts dans notre famille.
Quant au premier adjoint au maire de Daloa, Kenza Sila, il a également salué cette initiative du gouvernement qui vise à indemniser et prendre systématiquement en charge les frais médicaux de toutes les victimes des accidents corporels de la route en Côte d'Ivoire. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
Hors de chez nous, 15 personnes, dont 4 journalistes et un membre de la défense civile, ont perdu la vie à Gaza dans une frappe israélienne sur l'hôpital Al-Nasser. L'annonce a été faite ce lundi par le porte-parole de la défense civile de la bande de Gaza. La chaîne de télévision qatari Al Jazeera, elle, a confirmé que l'un de ses reporters, Mohamed Salama, figure parmi les victimes. Cette frappe israélienne a été menée dans la nuit du 10 au 11 août dernier sur une tente utilisée par une équipe de journalistes. En sport Afrobasket 2025, l'Angola survole la finale contre le Mali et remporte son 12e titre. Hier dimanche, chez eux au Palais des Sports de Luanda, les Palancas Negras se sont largement imposés 70-43 avec un niveau d'intensité que les Maliens ont contenu difficilement face à des Angolais qui ont remporté chaque édition de l'Afrobasket organisée sur son sol en 1989, 1999 et 2023. La différence d'expérience s'est faite ressentir. Le Sénégal a fini troisième de la compétition. Retour en Côte d'Ivoire, place au dossier d'actualité. À Guiglo, du 13 au 16 août, s'est tenu le forum du Grand Ouest pour la paix autour du thème « Le Grand Ouest de la guerre à la paix retrouvée, un symbole pour la Côte d'Ivoire, une expérience à partager ». Une initiative du ministre d'État Anne-Désirée Oloto, Lamizana, présidée par le Premier ministre Robert Beugré-Mambé. L'objectif est de renforcer une paix durable à l'approche de la présidentielle 2025. Notre correspondant Ignace Di Thibault nous fait le point de ces 4 jours de sensibilisation dans ce dossier d'actualité.
À Guiglo, s'est tenu du 13 au 16 août 2025 le Forum du Grand Ouest pour la paix sous le thème « Le Grand Ouest de la guerre à la paix retrouvée, un symbole pour la Côte d'Ivoire, une expérience à partager ». Organisé par le Conseil régional du Cavali à l'initiative de la ministre d'État Anne Ouloto Lamizana, ce forum présidé par le Premier ministre Robert Beugré-Mambé, représenté par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général du corps d'armée Vagondo Diomandé, vise à l'approche de l'élection présidentielle 2025, a contribué à la consolidation d'une paix durable et inclusive. Docteur Flan Moquet évoque les ateliers avec les communautés.
Différentes communautés ont répondu à des questions cruciales, ce qu'elles pensent des autres communautés, ce que d'autres communautés leur reprochent, et ensuite, quelles sont les recommandations à faire pour améliorer la coexistence pacifique.
Venu soutenir l'élan de paix, le président du COGEP, Charles Blégoudé, a appelé à se souvenir du passé douloureux de la population de l'Ouest.
Nous sommes à Diglo, qui a été théâtre de beaucoup de maîtres sûrs. Pour moi, les larmes de cette région-là doivent cimenter la paix en Côte d'Ivoire.
Le dialogue entre communautés est pour la ministre Miss Belmont Dogo la promesse d'un tissu social renforcé.
Il faut regarder les plaies en face pour soigner les plaies et surtout les cicatriser pour ne plus que ces plaies-là s'ouvrent à nouveau. Parce qu'en réalité, ce qui manque, c'est le dialogue.
Résumant l'essentiel des travaux du Forum de la paix à la responsabilité individuelle, la ministre d'État Anne-Désirée Lamizana a exhorté chaque participant à faire preuve de dépassement de soi.
Ce qu'on doit retenir, c'est notre engagement, notre volonté de regarder désormais dans la même direction. Tenir compte de notre expérience dans le Grand Ouest pour dire que c'est possible. La résolution la plus importante, c'est de dire que dois-je faire pour que plus jamais nous ne soyons divisés. Et c'est avec cette question que chacun doit rentrer chez lui.
Porteur du message du Premier ministre Robert Beugré-Mambé et fils du Grand Ouest, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, s'est réjoui de l'image reluisante du Grand Ouest.
En ce jour solennel qui marque la clôture du Forum du Grand Ouest pour la paix, ces 4 jours d'échange, de mémoire et d'engagement ont révélé au monde entier le visage du Grand Ouest, un Grand Ouest qui est debout, digne et résolument tourné vers l'avenir.
Ignace Gitibo, Guiglo, Radio de la Paix.
C'était le dossier d'actualité sur le Forum du Grand Ouest pour la paix réalisé par Ignace Di Thibault. À présent, l'invité de la rédaction dans cette articulation, Ismaël Ango, reçoit un consultant en droit, Dr Olivier-Pierre Lobé. Il nous éclaire sur les compétences de la CEI, la Commission électorale indépendante en période électorale.
Dr Pierre-Olivier Lobé, bonjour.
Bonjour.
Ces temps-ci, la CEI, Commission électorale indépendante, a reçu des dossiers de candidature de personnes qui ne sont même pas sur la liste électorale ou qui sont incomplets. Ces situations ne risquent-elles pas d'ouvrir la voie à des candidatures fantaisistes?
Je dirais que non, puisque au regard des textes, le rôle de la CEI est d'abord de recevoir les candidatures. Son rôle n'est pas d'analyser, formuler les candidatures. Donc, elle peut recevoir tout individu qui désire candidater aux élections présidentielles, même avec des dossiers incomplets, et il appartiendra à l'instance en charge d'étude des candidatures pour l'éligibilité de dire qui est éligible ou non. Et si ces individus, par contre, qui ne sont pas éligibles, faute de remplir les conditions, sont inscrits sur la liste de candidats, là, il peut y avoir un conflit. Mais dans le cas d'espèce, c'est pour le moment, la CEI ne fait que son activité première, recevoir les intentions de candidature.
On observe une différence de compétence entre la CEI et le Conseil constitutionnel en matière de validation des candidatures. Pour la présidentielle, la CEI se contente de recevoir et de transmettre les dossiers au Conseil constitutionnel qui est le seul à valider les candidatures. En revanche, pour les législatives, la CEI a le pouvoir d'examiner et de rejeter les dossiers de candidature. Le Conseil constitutionnel n'intervient qu'en cas de recours. Qu'est-ce qui justifie cette distinction de rôle?
Il y a deux types d'élections, les élections locales et les élections nationales. Dans le cas des élections locales, législatives, municipales ou sénatoriales, la CEI effectivement reçoit les candidatures, les analyse, les valide, donne la liste des candidats. Mais pour ce qui est d'élections nationales, présidentielles, le rôle de la CEI, c'est vraiment une caisse de réception et de transmission. D'un côté, on a des élections au niveau local, des élections administratives et puis politiques, législatives. Et de l'autre côté, présidentiel purement politique. C'est la distinction que fait le texte, la loi, relativement au rôle de la CEI dans les différents types d'élections. Dans notre système, c'est ce qui est juste, assure beaucoup plus de transparence dans l'esprit démocratique.
Et pourquoi la loi a fait cette distinction?
Est-ce que je suis bien placé pour expliquer le pourquoi de la loi? C'est tellement qu'il faut se référer à ceux qui ont élaboré les textes. Alors, on peut quand même s'essayer à une explication. C'est que d'un côté, parlant de l'élection nationale présidentielle, ça engage tout l'État. Donc, il faudrait qu'il y ait une haute juridiction, c'est le Conseil d'État, qui se prononce sur les candidatures et le sort de l'élection. Au niveau des élections locales, ceux qui participent, ce sont des électeurs différents. Donc, chaque région a son collège électoral. Et ceci pourrait justifier le rôle différent de la CEI en fonction de l'enjeu. Plus l'enjeu est grand, plus on confie le sort de l'élection, des candidatures, des résultats au Conseil constitutionnel, la plus haute institution juridictionnelle en matière constitutionnelle. Et moins les enjeux sont grands, au niveau local, la CEI analyse tous les processus. Même au niveau local, la CEI ne gère pas le contentieux, puisque ce n'est pas un organe juridictionnel. Au niveau des élections locales, législatives ou sénatoriales, quand on arrive au contentieux, c'est le Conseil d'État. Pour les élections sénatoriales législatives, qui sont les élections politiques, c'est le Conseil d'État qui commet du contentieux, à la différence du Conseil constitutionnel.
Alors, vu cette distinction de rôle concernant la CEI, le Conseil constitutionnel et même le Conseil d'État, est-ce que la loi n'est pas limitée?
Sur ce point, de mon avis, la loi n'a pas de limite, en tout cas de mon observation. C'est vrai que pour certains, il faudrait donner un plus grand rôle à la CEI concernant l'élection présidentielle. Mais il faut dire qu'à la différence du Conseil constitutionnel, la CEI organise toutes les élections, a beaucoup plus de tâches que le Conseil constitutionnel. Et donc, pour ma part, les textes ne sont pas si impertinents.
Alors pourquoi ces textes ne sont pas si impertinents?
Me demander d'expliquer le sens de la loi, parce que je dirais simplement que dans notre système, c'est ce qui est juste, assure beaucoup plus de transparence dans l'esprit démocratique.
Est-ce qu'il est possible d'apporter des réformes pour donner à la CEI le pouvoir de filtrer les dossiers de candidature pour les élections présidentielles, par exemple?
Il est possible de le faire, mais je veux dire qu'il faut d'abord une réforme des textes constitutionnels et du code électoral.
Docteur Pierre-Olivier Lobé, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de la rédaction, le consultant en droit, Dr Olivier Pierre Lobé. Il répondait aux questions d'Ismaël Ango sur le rôle et les attributions de la CEI en période électorale. C'est ici que nous refermons ce journal, mais avant le rappel de l'essentiel. Présidentielle 2025, plusieurs figures connues de la scène politique ont déposé ce week-end leur dossier de candidature à la CEI. Vous avez entendu les premiers propos de Simone et Yves Gbagbo et du représentant de Tidiane Thiam au terme du dépôt de leur dossier. Un bureau de liaison du Fonds de garantie pour une prise en charge gratuite des frais médicaux des victimes des accidents de la route a été récemment inauguré à Daloa. Vous avez eu les détails sur le rôle de ce fonds. Et puis à l'international, 4 journalistes ont perdu la vie à Gaza dans une frappe israélienne sur l'hôpital Al-Nasser dans le sud du territoire palestinien. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la revue de presse avec Mel Emmanuel. Moi, je vous retrouve à 15h pour un flash d'informations.
Bonjour. Hier, le PDCI et des milliers d'Ivoiriens ont déposé le dossier de candidature de leur président, Cheikh Tidiane Thiam.